Je vous félicite d'être venu pour une conférence de début d'après-midi, alors qu'il fait chaud, qu'on sort du déjeuner. On n'a peut-être pas très envie de passer une heure à écouter sur un sujet peut-être qui vous a paru un peu étrange. Je ne sais pas ce qui a été affiché sur la fiche, mais je crois que c'était le système gallican. Convaincu d'avoir été la première et principale cause de la révolution qui vient de décatholiciser et de dissoudre la monarchie très chrétienne et d'être aujourd'hui le plus grand obstacle en faveur de cette monarchie. La contre-révolution. C'est effectivement un peu curieux, on pourrait se dire, ce 15 août, que vous ne parliez pas plutôt de la Sainte Vierge. Bon, on va en parler quand même. Et puis, le 15 août, c'est pas seulement la fête de Notre-Dame, c'est la fête de Notre-Dame, mais c'est aussi la fête principale de la France. La Sainte Vierge est patronne principale de la France par son Assomption. Donc, ce n'est pas inutile de réfléchir un petit peu à la cause de la ruine de notre pays, qui était autrefois et de loin la première nation au monde, et qui devient de nos jours la risée des peuples. D'où ça vient? Cela vient de la Révolution, on le sait. Mais la Révolution, d'où vient-elle? C'est les francs-maçons, sans doute, les francs-maçons. Mais il y a une autre raison, une autre cause qu'on va étudier un petit peu. Et justement, c'est un sujet qui est peu connu, c'est pour ça que j'ai pensé que ce serait intéressant de vous en parler un petit peu. Et qui n'est pas tout à fait passé d'intérêt. J'ai eu certaines occasions, d'assister à des conférences, à des congrès de royalistes, légitimistes. Et je me suis aperçu que sans qu'ils s'en rendent compte, quelquefois en s'en rendant compte, ils avaient gardé des idées gallicanes, le gallicanisme. Donc on va dire, est-ce si c'est vraiment la principale cause de la Grande Révolution, comme le prétend le titre de la conférence, vous verrez pourquoi j'ai pris ce titre-là, eh bien ça pose quand même un problème. Parce que si les meilleurs, ceux qui veulent restaurer l'ordre en France, ont encore les idées qui ont amené la destruction de la monarchie, on n'est pas sorti d'auberge. Et puis on verra que cette question du gallicanisme a eu des conséquences non seulement dans la politique française, la Révolution, mais des conséquences plus lointaines, même dans la crise actuelle de l'Église. Ce n'est pas tout à fait étonnant, puisque la crise actuelle dans l'Église n'est que une conséquence de la Révolution. Alors, si la Révolution a eu pour cause, une de ses causes, le gallicanisme, eh bien ça va avoir des conséquences aussi dans la crise dans l'Église, notamment dans la question de la collégialité. Le pape n'est plus le seul chef de l'Église. Maintenant, il doit partager son pouvoir. Il y a deux pouvoirs dans l'Église, deux pouvoirs suprêmes. C'est dans le nouveau droit canon, officiellement. Deux pouvoirs suprêmes, le pape et le collège des évêques. Collégialisme, le pape n'a plus le monarque, le chef suprême de l'Église. Et puis, la question aussi de la liberté religieuse, du fait que l'État n'est plus compétent pour être chrétien, uniquement chrétien, il doit accueillir toutes les religions. Ça, c'est Vatican II, et c'est une conséquence lointaine du gallicanisme. Alors, pourquoi avoir pris ce titre-là? Je vais commencer par là, expliquer un petit peu la genèse, puis ensuite on verra qu'est-ce que c'est que le gallicanisme. Eh bien, l'idée de cette conférence vient d'un livre qui s'appelle « La conjuration antichrétienne » de Mgr de Lassus. Un livre que tous ceux qui s'intéressent un peu à ces questions, questions de révolution, questions de désordre dans l'Église, dans l'État, doivent avoir lu. C'est un livre capital. Un livre qui date d'il y a plus de 100 ans, écrit en 1910 par Mgr de Lassus, donc qui était un chanoine, je crois, de l'Église dans le nord de la France, hein, du diocèse de Lille actuellement, mais qui à l'époque c'était Cambrai. Et il était responsable donc de la semaine religieuse de Cambrai, docteur en théologie, et ce Mgr de Lassus s'est intéressé toute sa vie à ces questions de révolution et des causes de la révolution. C'est un petit peu son maître livre. Et là-dedans, il publie, ceux qui l'ont lu le savent, et c'est bien connu, les documents que les papes et aussi les gouvernements catholiques, qui ont existé encore au XIXe siècle, notamment en Autriche, même en Italie, avaient saisi, donc chez les francs-maçons. Ils avaient saisi un certain nombre de francs-maçons et d'autres sociétés secrètes, comme la société des Carbonari, la haute vente des Carbonari. Ça, c'était des sociétés secrètes qui ont lutté contre l'Église, qui ont détruit les États pontificaux, qui ont fait l'unité italienne, mais en dehors du pape, etc. Dans toutes ces sociétés secrètes, eh bien, quand il y avait encore des polices catholiques, comme dans les États pontificaux, et puis aussi dans certains États catholiques d'Europe, avaient des archives. Et le pape, alors c'est quoi? C'est Grégoire XVI, le premier, au début du XIXe siècle, a fait venir un historien français, qui s'appelle Crétineau Joly, vous connaissez peut-être, parce qu'il a écrit une histoire de la Vendée, très belle histoire, donc un bon écrivain, bon esprit, bon historien. Et donc il lui a dit, voilà, j'aimerais que vous écriviez une histoire secrète de la Révolution. Comment la Révolution a lutté et lutte encore contre l'Église. On était encore dans les débuts du 19e. Ils n'avaient pas encore gagné complètement. Voilà, donc Crétineau Joly, c'est le travail. Dans le dernier salut de la Terre, l'avant-dernier, je vous conseille la lecture. Il y a 4 ou 5 pages sur cette histoire. Comment Crétineau Joly s'est procuré des documents pour écrire son histoire de la Révolution. Parce que ça a été, évidemment, les francs-maçons et les autres mettent en doute et disent, oui, mais ce papier, ce document, ce pas prouvé, c'est des histoires un peu qu'il a racontées. Alors même, l'Église conciliaire ajoute aussi son petit grain de sable. Donc, l'ancien évêque d'Angers, Mgr Brugès, que certains ont peut-être connu, ancien dominicain en plus, enfin, tout à fait à notre gloire. Maintenant, il est à Rome, il s'occupe de la bibliothèque du Vatican, et donc il a fait un petit communiqué en disant qu'il a fait publier, voilà, il a demandé à l'Église française de publier ça, parce que l'Église française avait parlé de ces documents. Il a dit, voilà, moi je m'occupe de la bibliothèque des archives pontificales, des archives secrètes du Vatican. Jamais un monsieur Crétineau Joly n'est venu consulter les archives du Vatican. Tout ça, ça vient pas d'ici. Alors, on a repris, nous on a regardé l'histoire de ce Crétineau Joly qui a été... on a raconté sa vie et on raconte comment il s'est procuré toutes ces archives. Il n'est pas allé les chercher dans les archives secrètes du Vatican, mais c'est des documents que les papes, les cardinaux lui ont confiés directement. Et puis il est allé voir les Metternich, il est allé voir le roi de Naples, etc., qui lui ont confié des documents. Donc c'est un document tout à fait authentique. Et quand il a publié, je passe un peu sur les détails parce que c'est un peu long, le pape Pie IX, Grégoire XVI étant mort, arrivant 1846-1848, la Révolution prend de plus en plus de pouvoir. Et Pie IX a un peu peur au début, et il dit à Crétineau Joly, attendez, non, c'est pas le moment de publier votre livre, parce que ça va quand même faire des histoires. Voilà. Et Crétineau Joly, qui était un colérique, de rage, a tout jeté au feu. Tout était prêt pour être publié. Bon, finalement, il a repris avec les documents qui lui restaient, puis il a écrit son livre. Voilà, et quand il a écrit son livre, Pinhoff a fait une lettre pour dire, authentifier en disant, voilà, les documents qui sont dans ce livre sont des documents authentiques, pas de problème. Hein. Voilà. Donc, Monseigneur de la Susse, c'est pas le premier, mais enfin, dans ce livre-là, publie ses documents et les analyse. Donc, c'est le plan de la franc-maçonnerie qui a été établi au début du 19e siècle, notamment par la société de haute vente des Carbonari, qui était une des sociétés, pas la société supérieure, les inconnus, qu'on ne connaît pas, bien sûr, ils sont par définition les inconnus, hein, qui dirigent toutes ces sociétés secrètes. On voit le chef de la haute vente, donc il y a des instructions de la haute vente, des correspondances, il dit « On nous a chargé, cher Nubius, d'un fardeau bien difficile. » On, qui c'est on? C'est la société secrète suprême qui évidemment se cache bien. Voilà. Eh bien, depuis deux siècles, c'est exactement ce plan qui se déroule. Donc, ce livre écrit en 1910 est acteur parfaitement d'actualité, au tel point, à quel point que des gens qui sont pas spécialement des grands catholiques, comme Égalité et Réconciliation, là je ne sais plus comment il s'appelle, le grand chef, hein. Soral, Alain Soral, bon, même s'il a des sympathies, c'est quand même pas un pilier de sacristie, hein. Eh bien, on lui a montré ce livre, il a été tellement frappé qu'il l'a fait rééditer. Voilà. Il n'y a rien à changer, c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. Donc, la congrégation chrétienne, dans le chapitre 70, tout à fait à la fin de ce livre, Monseigneur de la Susse se demande, est-ce que, bon, malgré toute cette révolution, ces progrès de la révolution, est-ce qu'il y a encore un espoir pour la France? Avant de... Question bien angoissante, dit-il. Donc, et avant de voir les raisons d'espérer, mais avant de voir les raisons d'espérer, il voit les raisons, les sujets de désespérance, comme il dit. Les raisons qui pourraient nous faire désespérer d'une solution. Une question bien angoissante se présente pour nous, Français. 15 août, fête de notre passage de la France. La France aura-t-elle part encore aux miséricordes divines? Et mieux encore, reprendra-t-elle la suite de la mission qui lui a été donnée parmi les autres peuples? Car la France a reçu une mission. Le jour où elle était mise au monde, le jour où elle est sortie du baptistère de Reims, vivante de la vie du Christ et sacrée défenseur de l'Église, soutien de la papauté, apôtre des nations. Alors à ce sujet, petit intermède publicitaire, je vous conseille beaucoup sur cette question de la mission divine de la France, les deux numéros 17 et 19 du Ciel et la Terre. On a mis tous les documents, des articles qui expliquent ça. Quelle est cette mission que la France a reçue de la Providence? Le numéro 17, malheureusement épuisé, mais le numéro 19 existe encore. Et puis vous pouvez sur le CD-ROM vous prendre les articles du numéro 17. Donc, car la France a reçu une mission. Ô Dieu, disait il cite une oraison qui date probablement du 9e siècle. Très ancienne oraison, donc du temps des Carolingiens. Ô Dieu tout-puissant et éternel, qui avez établi l'empire des Francs pour être par le monde l'instrument de votre divine volonté, le glaive et le rempart de la Sainte Église, prévenez toujours et partout de la céleste lumière les fils suppliants des Francs, afin qu'ils voient toujours ce qu'il faut faire pour l'avènement de votre règne en ce monde, et que pour faire ainsi ce qu'ils auront vu, ils soient jusqu'à la fin remplis de charité et de courage. Voilà, donc la France a reçu une mission. Mais, continue Monseigneur Gassius, tout comme l'individu, un peuple peut finir par se rendre infidèle à sa mission. Le peuple juif, gardien de la divine promesse, s'est retourné contre sa vocation. Le peuple de France, après avoir joui d'un privilège semblable, ne s'est-il point rendu coupable du même crime? En 1795, en pleine révolution, il est paru à Francfort un livre sans nom d'auteur intitulé « Le système gallican atteint et convaincu d'avoir été la première et principale cause de la révolution qui vient de décatholiciser et de dissoudre la monarchie très chrétienne et d'être aujourd'hui le principal obstacle à la contre-révolution en faveur de cette monarchie. » Donc c'est en lisant ça, je me suis dit, c'est intéressant quand même de se procurer ce petit livre. Alors j'ai voulu le chercher et j'ai fini par le trouver. Donc j'ai commencé par trouver une réédition de 1802. Donc ça a été réédité par un autre chanoine qui s'appelle Chanoine Petit, un Belge, et qui donne donc le nom de l'auteur de la première édition, c'était le chanoine Poitiers. Donc c'est un chanoine de Reims. Donc, à Reims où sans doute on avait gardé un peu la vision de Saint-Rémy, hein, de la vocation de la France. Saint-Rémy ayant le premier donné à Clovis, bien dans, c'est bien clair dans son testament notamment, la vocation de la France. Voilà. Et puis j'ai trouvé ensuite la première édition, 1795, vous pourrez vérifier, je vais le regarder maintenant avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin, on peut télécharger tous les livres anciens, on peut pratiquement tout trouver. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que le gallicanisme? Qu'est-ce que c'est que le gallicanisme? Donc, comme le nom l'indique, hein, gallican, c'est une erreur qui est un petit peu liée à la France, mais ce n'est pas seulement à la France. C'est, on l'appelle comme ça parce que c'est né, sur, ça s'est développé surtout en France. Donc c'est une famille d'erreurs comprenant le gallicanisme ecclésiastique ou religieux et le gallicanisme césarien ou politique. Donc le premier, le gallicanisme religieux, diminue les prérogatives du pape au profit des évêques en élargissant dans un sens démocratique les cadres de la hiérarchie. Autrement dit, le pape, c'est bien, mais il faut quand même qu'il consulte, et puis qu'il y ait une assemblée, et puis qu'il y ait des synodes, et puis que... Alors, au début, ce sont les évêques qui ont réclamé, en disant, voilà, il faudrait qu'on consulte le collège des évêques quand le pape a des décisions importantes à prendre. Par exemple, pour définir un dogme, le pape ne peut pas faire ça tout seul. Pape XII, il n'aurait pas eu le droit, s'il avait suivi ses conseils, hein, cette doctrine-là, de définir le dogme de l'Assomption. Il faut qu'il consulte, il faut qu'il y ait un vote, et puis qu'on décide, le collège des évêques décide. Puis ensuite, ce sont les curés qui ont dit, mais pourquoi seulement les évêques? Nous aussi, on va quand même avoir le droit de parler. Donc certains Richer, qui étaient doyens de la faculté de théologie de Paris, a créé le richérisme, donc le pouvoir chez les curés. Et puis ensuite, c'était tout le peuple chrétien. Et on en est là maintenant. Hein. Vatican II, c'est le peuple chrétien, c'est le pouvoir. Voilà. Et puis ensuite, on désigne des représentants, voilà, des prêtres, et puis les prêtres des évêques, et puis le pape. Enfin, on confond tout, on mélange tout, on introduit la démocratie dans l'Église. Donc ça, c'est la première erreur. Le pape, on diminue son pouvoir. Il n'a plus le pouvoir de définir des dogmes. Il faut qu'il y ait l'assentiment des autres évêques. Et il n'a plus non plus le pouvoir de gouvernement dans toute l'Église, de nommer des évêques, etc. Tout ça. Deuxième erreur, donc au niveau politique cette fois-ci. Donc, l'État est plus ou moins soustrait à l'influence de l'Église. L'État devient maître chez lui, il n'a plus rien à rendre, plus de compte à rendre à l'Église. Donc, c'est ce qui va être défini. On va voir. En 1682, dans les quatre articles gallicans qui vont être écrits par Bossuet, un grand évêque pourtant, un grand théologien, un saint prêtre, mais là, faut dire qu'il a fait une bourde, hein. Une grosse bourde. Bon, il l'a fait un peu contraint et forcé, vous allez voir un peu l'événement. Il a voulu éviter le pire. Et puis Louis XIV, quand même, c'était Louis XIV, et il fallait faire attention à ce qu'on a. Il avait la main un peu dure, voilà, etc. Le pape, à l'époque, avait moins, etc. Donc il a fait, c'est lui qui va écrire les quatre articles gallicans. Voilà. Alors, avant d'arriver aux quatre articles gallicans, on va faire une petite histoire. Une petite histoire, voir l'histoire du gallicanisme. Comme ça, on va comprendre un petit peu mieux comment on allait arriver là. Donc, au début, tout commence bien. Tout commence bien avec la conversion de Clovis. Grâce à Saint-Rémy. Saint-Rémy, donc, donne à Clovis toute une formation. Qu'est-ce que c'est qu'un roi chrétien? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il doit défendre l'Église. Il lui fait des promesses extraordinaires. Si votre race royale est fidèle à ses promesses, eh bien, votre empire s'étendra jusqu'à Jérusalem. Il le disait même quelque part, je n'ai pas trouvé. Et dans son testament, donc vous avez ici le testament entier de Saint-Rémy, qui est tout à fait authentique, quoi qu'on avait dit, avec toute une défense de ce testament. Alors voici ce qu'il dit. Mais par égard seulement pour cette race royale, qu'avec tous mes frères et co-évêques de la Germanie, de la Gaule et de la Neustrie, j'ai choisi délibérément pour régner jusqu'à la fin des temps, au sommet de la majesté royale. Il avait une vue prophétique. Il voyait que la royauté, le roi de France, devait d'abord durer jusqu'à la fin des temps et être à la tête de toutes les nations. Pour l'honneur de la Sainte Église et la défense des âmes. Le peuple français, le roi de France avait été choisi spécialement pour ça, l'honneur de la Sainte Église. Et par égard pour cette race que j'ai baptisée, que j'ai reçue dans mes bras, ruisselant des eaux du baptême, cette race que j'ai marquée les sept dons du Saint-Esprit, que j'ai ointe de l'onction des rois, ta vie, ça a bien été oint, sacré, par le Saint-Crème du même Saint-Esprit. Donc il a bien été sacré, on voit, par le Saint-Esprit. Alors, il fait ensuite, après cette introduction, une série de malédictions et bénédictions. C'est un petit peu comme dans la Bible, hein, à la fin du Deutéronome, Moïse, sur la montagne, là, il dit au peuple juif, si vous êtes fidèle, voilà, il vous arrivera, si vous êtes infidèle, ben voilà, il arrivera tout le contraire. Donc, il fait la même chose. Donc, je dis simplement la bénédiction. Que notre Seigneur Jésus-Christ daigne écouter les prières que je répands tous les jours en sa présence, spécialement pour la persévérance de cette race royale, suivant mes recommandations, dans le bon gouvernement de son royaume et le respect de la hiérarchie de la Sainte Église de Dieu. Qu'aux bénédictions de l'Esprit Saint déjà répandues sur la tête royale s'ajoute la plénitude des bénédictions divines. Que de cette race sortent des rois et des empereurs. C'est vrai, il est sorti pas mal, hein. Qui, confirmés dans la vérité et la justice pour le présent et pour l'avenir, suivant la volonté du Seigneur pour l'extension de sa Sainte Église, puissent régner et augmenter tous les jours leur puissance et mériter ainsi de s'asseoir sur le trône de David dans la céleste Jérusalem, où ils régneront éternellement avec le Seigneur, ainsi soit-il. Voilà, donc le testament de Saint-Rémy, la vocation de la France, ça commence, bon, il y a toujours des débats, hein. C'était des païens convertis, il y a encore des violences, mais grosso modo, pendant plusieurs siècles, cette race royale, donc les Mérovingiens, ensuite les Carolingiens, puis les premiers Capétiens, vont être fidèles. Et voici ce que va écrire un pape, le pape Grégoire IX, donc au début du XIIIe siècle. Il écrivait au roi Saint-Louis. Donc on arrive à l'apogée, on peut dire, de cette mission de la France, hein, avec Saint-Louis. Voici ce que dit le pape Grégoire IX. Dieu, auquel obéissent les légions célestes, ayant établi ici-bas des royaumes différents, suivant la diversité des langues et des climats, a conféré à un grand nombre de gouvernements des missions spéciales pour l'accomplissement de ses desseins. Et comme autrefois, il préféra la tribu de Juda à celle des autres fils de Jacob, et comme il la gratifia de bénédictions spéciales, ainsi il choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Attention, hein. La défense de la liberté religieuse, ce n'est pas la liberté Vatican II. À cette époque-là, la liberté religieuse, ça veut dire la liberté de la vraie religion, de l'unique vraie religion. Les autres, c'était des sectes, des fausses religions, ils n'avaient pas de liberté. Donc la liberté religieuse, ça veut dire que la France doit défendre la liberté des chrétiens. Des vrais chrétiens. Pour ce motif, continue le pontife, la France est le royaume de Dieu même. Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. Pour ce motif, Dieu aime la France parce qu'il aime l'Église qui traverse les siècles et recrute les légions pour l'éternité. Dieu aime la France qu'aucun effort n'a jamais pu détacher entièrement de la cause de Dieu. Dieu aime la France où en aucun temps la foi n'a perdu de sa vigueur, où les rois et les soldats n'ont jamais hésité à affronter les périls et à donner leur sang pour la conservation de la foi et de la liberté religieuse. C'est la religion catholique. Voilà. Donc on est sous Saint-Louis, c'est effectivement le 13e siècle, non, ça fait déjà 8 siècles que ça fonctionne plutôt bien. Malheureusement, ça va commencer à se gâter. Donc l'anticlericalisme va commencer à naître avec Philippe le Bel, c'est petit-fils de Saint-Louis. Alors Philippe le Bel avait des légistes, donc des conseillers pour les questions de loi, etc., de droit, qui ont voulu restituer, reprendre le droit romain. Le droit romain, ce n'était pas quelque chose de mauvais en soi. On pourrait dire, au niveau des païens, avant la venue de notre Seigneur, c'est même ce qu'il y avait de mieux. Et c'est ce qui explique que l'Empire romain a quand même duré pendant des siècles et des siècles, parce qu'ils avaient, c'était un peuple de juristes qui avaient des conceptions très. Voilà, certains droits naturels qui étaient relativement justes. Seulement, c'était un droit païen. Il n'y avait pas la place de notre Seigneur, forcément. Et les juristes ont dit, voilà, on va reprendre le droit païen. Comme ça, droit romain. Comme ça, ben, le pape n'est pas. Et donc, le roi de France, ben, il est encore en son royaume, il a de comptes à rendre en personne, pas même au pape de Rome. Voilà. Et Philippe le Bel, alors... Je crois que c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément de mauvaises intentions, mais qui était effectivement peut-être un bel homme, mais je pense qu'il lui manquait un petit peu de jugement, et il s'est laissé embarquer là-dedans, au point qu'il y a eu donc une querelle très vive, et vous connaissez sans doute la Nogaret, donc un des légistes qui est allé donner une gifle, dit-on, au pape Boniface VIII, qui en est mort de chagrin. C'est un attentat d'Anemie. Donc au début du XIVe siècle, 1300 et quelques. Donc, querelle entre Philippe le Bel et Boniface VIII. Boniface VIII, bon, peut-être qu'il avait des défauts aussi, hein, je ne sais pas. Hein, on dit qu'il était un peu autoritaire et tout. Il a en tout cas fait une très belle bulle, Unam Sanctam. Je vous conseille de la lire. Pas très facile peut-être de trouver, parce que mais je pourrais vous en trouver un exemplaire. Ce n'est pas les encycliques du pape François de 75 ou 80 pages où on ne comprend rien. C'est trois pages et c'est clair et limpide comme de l'eau de roche. On comprend tout ce qu'il dit. Voilà. Donc il dit tout simplement, bah, écoutez, il y a deux glaives. Comme dans la Passion, notre Seigneur demande, il dit à un moment, ça va chauffer. Il connaît les apôtres, et Saint-Pierre arrive, il dit, voilà, mais Seigneur, il y a deux glaives ici. Donc le pape utilise cette image, l'Église a deux glaives. En fait, il n'est pas lui qui a inventé ça, ça vient de Saint-Bernard. Saint-Bernard a fait tout un sermon là-dessus, que le pape ne fait que résumer. Il dit, il y a deux glaives. Il y a le glaive temporel, et à le glaive spirituel. Donc il y a deux autorités, si vous voulez, dans la société. Il faut voir, alors c'est très intéressant parce que notre chanoine, le fameux chanoine Poitiers, il est tout à fait dans cette idée-là. Avant la Révolution, dans l'Ancien Régime, on considérait qu'il n'y avait qu'une société, l'Église, la société chrétienne, avec deux autorités. L'autorité spirituelle, qui était exercée par le pape et les évêques, le clergé, et l'autorité temporelle. Mais les deux faisaient une seule société. Voilà. Donc, le pape dit, dans cette perspective-là, le pape dit, il y a deux glaives. Il y a le glaive temporel, il y a le glaive spirituel. Mais il dit, il faut qu'il y ait une certaine harmonie. Donc, l'Église a les deux glaives, mais elle n'utilise que le glaive spirituel. Quant au glaive temporel, il est manié par les rois, les soldats, mais sous l'autorité du pape. C'est-à-dire que le pape a un certain pouvoir pour, pas lui dire tout ce qu'il doit faire, mais au moins lui donner certains ordres quand elle a besoin, notamment, du glaive temporel. Elle peut très bien dire, écoutez, venez m'aider, puisque moi je n'ai pas le glaive temporel, j'ai besoin qu'on me défende, venez m'aider. C'est l'histoire des croisades. Donc il y a certains cas où l'autorité spirituelle peut demander l'aide à l'autorité temporelle. Parce que il faut qu'il y ait une harmonie. Ben, c'est comme dans la famille, si vous voulez. Hein. Il y a deux parents, il y a le papa et la maman, mais si on les met à l'égalité, non, il faut qu'il y en ait un. Quand il y a des décisions à prendre importantes, il faut qu'il y en ait un qui ait une autorité supérieure. Alors les papes comparent pas en général les deux pouvoirs, au pouvoir du papa et de la maman, parce que ça n'irait pas très bien, la maman n'est pas tellement le glaive temporel, hein. Mais ils comparent plutôt, c'est encore jusqu'à Léon XIII, hein, le dernier qui a utilisé cette comparaison, l'âme et le corps. De même que nous sommes une seule personne avec une âme et un corps, il y a une société où il y a deux pouvoirs et on peut les comparer avec une hiérarchie, donc l'âme est supérieure au corps. Le pouvoir spirituel est supérieur au pouvoir temporel. Enfin, donc il rappelle bien cette doctrine. Mais évidemment, les rois de France commencent à... Alors souvent, c'est des questions d'argent. Philippe le Bel avait besoin d'argent, donc il prenait de l'argent là où il y en avait, c'est-à-dire dans les évêchés, dans les monastères, etc. Donc il disait, ben voilà, moi j'ai des droits sur l'Église, et puis je fais des impôts, et puis je prélève l'argent. Alors le pape protestait, etc. Voilà. Donc on arrive à la guerre de Cent Ans, qui est le Monseigneur de la Suisse, donc, outre ce très beau livre, a écrit aussi un autre très beau livre que je vous conseille, on n'en a plus malheureusement ici, s'appelle La mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc. La mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc. Voilà. Il rappelle que dans ce livre-là, que la guerre de Cent Ans a été une punition du ciel contre ces déviations des rois de France qui ont voulu s'émanciper de l'Église. Eh bien, ils ont eu la peste noire, la guerre de Cent Ans, etc. Et Sainte Jeanne d'Arc a été envoyée du ciel, non seulement pour nous libérer des Anglais, sans doute, parce que si les Anglais nous avaient été restés chez nous, on serait tous protestants maintenant, hein, mais aussi pour rappeler au dauphin, au gentil dauphin, Charles VII, sa mission d'être le lieutenant du Christ. Et donc, elle le dit à plusieurs reprises. Voilà. Donc là, vous avez aussi un numéro spécial du Ciel et la Terre sur Sainte Jeanne d'Arc, numéro 83. Ça va sûrement être parallèle. Donc, quand elle est allée voir Robert de Baudricourt, à Vaucouleurs, tout au début de sa mission, « Je viens de la part de Monseigneur, pour que vous mandiez au dauphin de bien se tenir et de ne pas engager de combat avec ses ennemis. Monseigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Ne devons lui donner de secours qu'après la mi-carême. Le royaume ne regarde pas le dauphin, il regarde mon Seigneur. Mon Seigneur, donc toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Cependant, on veut que le dauphin soit fait roi et tienne le royaume en commande. Tienne le royaume en commande. La commande, c'est une institution de la fin du Moyen-Âge. Là, ça vous explique qu'ici, par exemple, il y a le couvent et puis il y a le prieuré de la Haie aux Bonshommes. Parce que ici, comme dans toutes les abbayes et couvents où il y avait un petit peu d'argent, hein, encore c'est un abus, sans doute qui vient des idées gallicanes, hein, le roi de France nommait lui-même un abbé, un supérieur, commendataire. C'est-à-dire qu'il avait le titre, je suis le prieur, c'est moi le prieur de la Haie aux Bonshommes. Moi, je ne suis pas du tout un moine, je ne connais rien à la vie religieuse. Je suis un seigneur, mais je viens ici une fois par an, passer 3 semaines, je me fais construire un petit château là à côté, parce que c'est quand même plus sympathique. Je n'ai pas trop envie d'aller habiter dans les cellules des moines. Je me fais un petit château, et puis voilà, apportez-moi les revenus. Et puis je repars ensuite à la cour, où ce sera beaucoup mieux. Voilà, la commande, c'est ça. Donc la commande, c'est que c'est on est le représentant, ici c'est le représentant du roi de France. Là, ce que veut dire Saint-Denis, c'est que le roi de France est lui le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le lieutenant du Christ. Alors vous connaissez sans doute la scène, je ne le rappelle pas ici, hein, où elle a fait toute une mise en scène, justement. Alors, on pense que c'est à Saint-Benoît-sur-Loire, au mois de juin, donc l'année où 219, je pense. Donc, où elle a fait venir le gentil dauphin, alors qu'il n'était pas encore sacré. Elle n'a pas voulu l'appeler roi avant qu'il soit sacré. Hein. Donc, gentil dauphin, ça veut dire dauphin de la gens, dauphin qui est de la race royale. Donc, c'est le vrai dauphin. Elle a fait venir 3-4 notaires, et elle a dit au dauphin, voilà, gentil dauphin, faites-moi don de votre royaume. Alors, il était un peu interloqué, mais elle avait une telle autorité, une telle prestance, elle venait même de remporter les grandes victoires extraordinaires, le Patay, hein, Patay, où il y a eu 3 morts seulement chez les Français, et puis des milliers de morts chez les Anglais, une chose invraisemblable. Hein. Que le roi de France subjuguait, lui dit, très bien. Alors, elle fait venir les notaires. Notaire noté, le roi de France, aujourd'hui, à 15h, a fait don de son royaume à Jeanne la Pucelle. Et puis, quand elle continue, notaire, noté encore, Jeanne la Pucelle fait don du royaume de France à Monseigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, écrivez encore, notre Seigneur Jésus-Christ, Monseigneur, donne son royaume en commande à Charles pour qu'il soit, voilà, ça son représentant, son lieutenant. Donc elle a rappelé cette mission, c'est la vision catholique de la politique, tout simplement, par une petite scène très simple, hein, mais tout le monde peut comprendre. Voilà, donc malheureusement, ça n'a pas duré. Et là, ça n'a pas duré longtemps, puisque le même gentil dauphin, devenu Charles VII, c'est lui qui va faire la pragmatique sanction de Bourges. 1438, c'est pas longtemps après, hein, 10 ans après. Pragmatique sanction de Bourges, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on est donc au début du XVe siècle, 1420, 1430, c'est le grand schisme. C'est la pagaille, il y a 3 papes, il y en avait 2, puis ensuite on a régné un concile qui a voulu trancher les choses, qui a dit, bon écoutez, on demande aux deux papes de démissionner, on va en nommer un troisième. Ils ont nommé un troisième et les 2 autres ont pas voulu démissionner, donc il y a eu 3 papes, enfin bon, c'était la pagaille. Alors, le concile, enfin les évêques se sont réunis à Bâle et ils ont voulu mettre un peu d'ordre. Mais ils ont émis des idées fausses du genre, puisque c'est comme ça, ma désiromesse, c'est le concile qui va gouverner l'Église, c'est le droit du conciliarisme, et puis le pape sera simplement un représentant du concile pour appliquer les décisions du concile. Et donc la pragmatique sanction de Bourges, c'est une application, si vous voulez, à la France de ces erreurs du conciliarisme. Donc c'est diminution du pouvoir du pape. Charles VII, 29 évêques et abbé de France, reprend avec quelques modifications une vingtaine de décrets pris par le concile de Bâle en réaffirmant la suprématie des conciles. Elle limite les pouvoirs du pape. Ainsi, la libre élection des évêques et des abbés par les chapitres et les monastères est rétablie. Ce n'est plus le pape qui va nommer les évêques, c'est les chapitres. Évidemment, avec l'influence du pouvoir royal derrière. Elle supprime les nominations par le Saint-Siège et son droit de réserve. Le pape n'a plus le droit de nommer les évêques. Elle réduit la possibilité du pontife de lever un certain nombre d'impôts. Toujours ça, les questions de l'argent derrière. Et restreint les effets d'excommunication et de l'interdit. C'est une chose qui ne plaisait pas du tout donc, aux fameux légistes. C'était la doctrine de l'Église qui a été rappelée par saint Thomas d'Aquin, tout un article dans la Somme théologique, où il rappelle que si un roi, un prince, utilise son pouvoir contre les chrétiens, s'il propage devient hérétique, par exemple, qu'il propage l'hérésie, le pape peut très bien intervenir pour l'excommunier et lui retirer son pouvoir, c'est-à-dire qu'il libère tous ses sujets du devoir de lui obéir. Disons, voilà, c'est un excommunié, vous n'êtes plus obligé de lui obéir, vous pouvez très bien nommer, choisir un autre roi. C'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois, notamment en Allemagne. Évidemment, ils n'aimaient pas beaucoup, les rois n'aimaient pas beaucoup ce genre d'intervention. Voilà. Donc, la pragmatique sanction de Bourges. Donc, querelle à nouveau entre le pape, le roi de France est obligé d'annuler sa pragmatique sanction. Finalement, on arrive à un concordat, donc le premier concordat de l'histoire de la chrétienté, fait par François Ier, donc quelques dizaines d'années plus tard. Donc le concordat, c'est chacun fait un peu des concessions pour se mettre d'accord. Mais c'est déjà plus la bonne entente, la vraie bonne entente. Dans une famille, si papa et maman sont obligés de faire un papier pour dire c'est toi qui feras la vaisselle, c'est moi qui irai sortir le chien, c'est toi qui iras chercher sortir les poubelles, etc., ça prouve que normalement, on n'a pas besoin de faire un papier comme ça, on s'entend. Et puis on discute de temps en temps quand il y a un problème. Voilà. Donc le concordat. Bon, ça continue. Alors Louis XIII, on arrive à Louis XIII un peu après. Louis XIII, un roi très pieux. On va faire la consécration de la France à la Sainte Vierge. Il essaye un petit peu de remettre un peu de piété. Mais déjà à son époque, c'est la division parmi ses conseillers. Alors, vous avez les dévots. Je ne sais pas si c'est eux qui ont choisi ce nom-là ou si on leur a mis ça, ce nom-là pour un peu se moquer d'eux. Donc Saint Vincent de Paul, c'était quelqu'un de très dévot certainement, et les politiques. Les politiques, ce sont ceux qui, soi-disant, ils ont des bonnes idées politiques. Mais ce n'est pas forcément des grands dévots, donc Richelieu, par exemple. Alors les dévots disent, il faut continuer la politique chrétienne, il faut faire une Europe chrétienne, il faut lutter contre l'islam, contre les protestants, etc. Voilà, pour prendre la croisade. Et puis les politiques, ils disent non, la France a une mission divine, donc la France c'est très important, donc il faut sauver la France, donc on va s'allier avec le Grand Turc. Alors, donc François Ier envoie son anneau au Grand Turc pour s'allier avec le Grand Turc. En soi, bon, il y a bien pendant les croisades, des croisés qui se sont alliés avec des musulmans, mais contre d'autres musulmans. Là, on s'allie avec le Grand Turc contre l'Autriche hongroise, chrétienne, catholique. On va s'allier avec les protestants du Nord, hein, là-bas, les Suédois, etc., contre encore l'Autriche hongroise et les catholiques. C'est la fameuse guerre de 30 ans en Allemagne qui a fait je ne sais pas combien de millions de morts, un truc épouvantable. Hein. Par contre, en France, oui, alors en France, il faut qu'on mette un peu d'ordre, donc on va faire la guerre aux protestants. Donc on va limiter leur pouvoir, en tout cas. Donc ça, c'est les politiques. Voilà, arrive Louis XIV. Alors, Louis XIV. Voici ce que dit le DTC, Dictionnaire de théologie catholique. C'est pas moi qui invente, et c'est pas des gens qui sont spécialement anti-français, ou anti-Louis XIV, ou anti-catholique, ou je sais pas quoi. Hein. Louis XIV ne pouvait s'expliquer qu'il exista d'autres droits que les siens, ou du moins, des droits contre les siens. Il avait la vive persuasion de la sainteté et presque de l'infaillibilité de sa mission. Puis, il était le gallicanisme vivant, agissant, militant, triomphant. Donc c'est lui qui va mettre au point parfaitement le système gallican. Alors, comment ça s'est passé? Je résume brièvement. Ça a commencé avec l'histoire d'impôts, l'histoire de la régale. Donc la régale, c'était un impôt que le roi, c'est pour ça que ça s'appelle la régale, prélevait quand il y avait un évêché vacant. Donc il n'y a plus d'évêque, l'évêque est mort, donc il ne peut plus toucher les revenus. Eh bien, le roi disait, bah, très bien, puisqu'il n'y a plus d'évêque, ben, mettez-moi ça dans ma caisse. Et puis comme il n'y a plus d'évêque non plus, c'est moi qui vais nommer aux bénéfices. Qui va nommer donc les curés, qui va nommer les prieurs, qui va nommer, etc. Mais bénéfice, ce n'est pas simplement une question temporelle, il y a aussi une question spirituelle. Les bénéfices, il y a une charge d'âme. Ce n'est pas tout à fait normal que ce soit le roi qui nomme aux bénéfices comme ça. Donc il y avait là un gros désordre. Alors la question de la régale, il y avait eu effectivement une certaine tolérance, que ça, les papes avaient permis dans certains diocèses, que le roi puisse toucher l'impôt en absence d'évêque, etc. Mais ce que Louis XIV a fait, il a dit, voilà, maintenant je suis le roi de France, c'est moi qui dirige, c'est moi l'État, pourrait-il, hein, je ne sais pas s'il a vraiment dit, en tout cas, moi j'ai tous les pouvoirs, donc j'impose la régale dans tout mon royaume, même là où il y en avait. Or, il y avait une excommunication qui avait été faite par le Concile, disant, on interdit absolument, sous peine d'excommunication, d'étendre la régale à d'autres diocèses que ceux où elle est déjà tolérée. Donc, conflit. Conflit avec le pape pendant 10 ans. Le pape est Innocent XI, je crois, à l'époque, un saint pape, mais qui fait son devoir. Donc, il ne veut pas céder. Donc, c'est des histoires invraisemblables. Tous les évêques de France s'écrasent devant Louis XIV, sauf deux évêques jansénistes. C'était peut-être pas les meilleurs, mais enfin, au moins, ils ont eu du courage. Les pauvres, ils en sont morts, enfin ils ont été tués, mais ils sont morts, ensuite ils ont élevé toutes ces. Enfin, les histoires invraisemblables. Je passe là-dessus. Toujours est-il que le Louis XIV en avait un petit peu assez, qu'on veut le résiste, et donc il décide de réunir une assemblée ecclésiastique l'assemblée ecclésiastique des Français, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, de France. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il convoque une trentaine d'évêques, une trentaine d'abbés qu'il nomme lui-même. Bien sûr, d'avoir des gens qui sont plutôt bien disposés. Et il leur demande bien de régler donc l'histoire de la régale. Évidemment, tout le monde, tous les évêques disent « Ah oui, vous avez tout à fait raison, sire, c'est à vous que ça revient, etc. » Ça s'est réglé. Réglé du côté du 14. Et puis ensuite, il dit « Écoutez, j'en ai assez que le pape me donne des ordres, qui prétendent intervenir dans mon royaume. Donc faites-moi un résumé des La doctrine gallicane, soi-disant liberté gallicane. C'est-à-dire que soi-disant, la France aurait eu, par les services qu'elle a rendus, par son histoire, etc., un certain nombre de privilèges. Et donc, écrivez-moi ça. Alors, les évêques essayent, mais enfin bon, c'est pas facile. Alors, on fait venir Bossuet. Et bien, Bossuet, c'était le plus doué, le plus capable. Et Bossuet est un peu coincé. Alors, il fait en 4 articles le résumé de la doctrine gallicane. Donc, il évite les choses les pires, mais ce qu'il fait, c'est quand même pas fameux. Je vous lis rapidement. Donc, le premier article. Les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles. Donc, le roi de France, il veut bien encore avoir un aumônier pour se faire à tous ses péchés, mais dans les choses temporelles, personne ne doit lui demander quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas être déposés directement ou indirectement par l'autorité des clés de l'Église. Fini cette histoire que je risque d'être excommunié et de me faire remplacer. Leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance et relevés du serment de fidélité. Ça, c'est le premier article concernant donc, les rapports entre l'autorité temporelle et l'autorité spirituelle. Les 3 autres articles concernent plutôt les questions religieuses, c'est le gallicanisme religieux, et ces 3 autres articles sont aujourd'hui hérétiques. Ce n'était pas quand Bossuet l'a fait, on ne peut pas dire que Bossuet était hérétique, mais aujourd'hui, il y a eu le Concile Vatican I qui a défini l'infaillibilité du pape, mais aussi son pouvoir suprême sur toute l'Église. Donc, ces articles essayent de diminuer le pouvoir du pape, de dire qu'il n'est pas infaillible, etc., sont tout simplement hérétiques. Le premier article sur l'autorité, les rapports entre les deux autorités, c'est pas hérétique, mais c'est certainement erroné. Voilà. Donc je passe sur les autres. Disons, au moins dans le syllabus, on trouve dans le syllabus de Pie IX, des propositions du syllabus qui vont directement contraire à cet article gallicain. Voilà. Donc, il me reste 10 minutes, d'accord. Donc je vais juste vous lire un petit peu la table des matières, on n'aura pas le temps de regarder, de ce fameux livre sur le système gallican atteint et convaincu. Donc il fait en 4 parties. D'abord, il fait une profession de foi de la doctrine de l'Église contre le système gallican. Il commence par rappeler qu'est-ce que l'Église enseigne sur les rapports, notamment entre les deux autorités, entre l'autorité temporelle et le pouvoir spirituel. Donc il rappelle notamment que le pape est le gardien des lois, des consciences, même de celles des princes. Donc le roi peut juger si le pape peut juger si le roi obéit ou non à la loi du Christ. On ne peut pas dire, comme on le fait maintenant dans la République française, Chirac l'avait dit il y a quelques années, que personne ne peut imposer des lois c'est l'Assemblée nationale, soi-disant, hein, voilà, qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Hein. L'avortement, c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est l'Assemblée générale nationale et aucune autorité ne peut venir dire ensuite au président de la République, vous faites mal. Si, le pape est... parce qu'il a reçu de notre Seigneur les écrits, le pouvoir sur les questions spirituelles, donc le pouvoir de garder les lois, et en particulier les lois morales. Voilà. Ensuite, là, il rappelle que les rois et les princes peuvent être déposés s'ils sont infidèles, il cite donc Saint-Thomas d'Aquin, etc. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, il explique le système gallican. Donc, le système gallican, il dit tout simplement, c'est un système de fausse liberté. Fausse liberté. On veut s'émanciper de l'autorité du pape. C'est du libéralisme, en fait. Hein. On veut une fausse liberté. Et ça va être le principe, le départ de la Révolution française, parce que on va établir donc le pouvoir dans l'Église, non plus au pape, mais conséquence politique, le pouvoir il va être dans la nation et plus chez le roi. Le pouvoir suprême, il est maintenant dans la nation. Donc les états généraux, ils vont se réunir et puis ils vont dire à Louis XVI, mais écoutez, on va changer la constitution. Voilà, puis vous restez là, hein, mais vous êtes un pot de fleurs, c'est plus vous qui gouvernez. Le pouvoir, il est chez nous. Et puis ensuite, le roi n'étant plus soumis au pape, ne recevant plus l'autorité qui lui était conférée par le sacre était un parfait rappel du fait que le roi recevait de l'Église une mission et donc un pouvoir. Mais même si on a conservé encore les sacres jusqu'à Louis XVI, mais l'évêque qui a consacré Louis XVI a bien expliqué dans son sermon, oui, bon, on fait des belles cérémonies, mais enfin, c'est un peu du folklore, hein. Faut pas prendre ça au sérieux. Hein. Voilà. Donc, du coup, le roi n'avait plus ce pouvoir sacré, mais du coup, on peut lui couper la tête, hein, comme à n'importe qui. Hein. On n'a plus ce respect qu'on aurait dû avoir pour lui. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie, donc il explique pourquoi donc, ces fausses idées ont entraîné la révolution. Il dit ce qui était grave, en 1682, avec ces quatre articles de Bossuet, c'est qu'on en a fait une doctrine. Jusque-là, il y avait bien des Gallicans et des Ultramontains, on les appelait déjà comme ça aussi. À la fin, au début, c'était les politiques et les dévots, mais ensuite, c'est devenu les Gallicans et les Ultramontains. Donc, il y avait bien deux tendances, mais il n'y avait pas de doctrine, de principe. De principe qu'ensuite, Louis XIV, en plus, c'était quelqu'un qui avait de la poigne et qui voulait gouverner. Hein. Donc, dès le lendemain que Bossuet a écrit les quatre articles, il les a imposés dans toutes les universités, dans toutes les chaires de France. Il fallait que n'importe quel prêtre qui voulait enseigner, il prête serment sur ces quatre articles. Donc c'est devenu des principes. Alors quand les autres pays, j'ai pas mis 14 comme leur tête, ont vu ça, ils ont poussé des cris. Alors c'est intéressant de voir, dans les premières pages, il explique comment en Hongrie, en Espagne, en Pologne, il y a des évêques qui ont dit, mais vous êtes fous les Français. Dans un siècle, vous allez avoir la révolution. Vous semez un principe de révolution. C'était dit et clairement dit. Hein. Et d'ailleurs, Louis XIV s'en est un petit peu aperçu. Louis XIV s'en est un petit peu aperçu. Il s'est rendu compte que finalement, peut-être que ça pouvait être dangereux. Donc, il y a eu 10 ans de discussion avec le pape. Et finalement, comme il était, c'était un bon politique, oui, je pense. Hein, donc, il n'a pas dit au pape, écoutez, j'ai fait une erreur. Je déchire ma copie. Hein. Le roi de France ne peut pas se tromper. Il ne s'est pas trompé. Mais il dit, voilà, j'en suspends, vu les circonstances un peu changées, non, je suspends l'application de ces quatre articles. On est resté jusqu'à la Révolution comme ça. Un temps, on les remettait, un temps, on les suspendait, etc. Lui, évidemment, Napoléon a tout remis en vigueur, avec les articles organiques, après le concordat. Et puis la restauration, ils ont mis les quatre articles, les Bourbons. Ils n'ont rien compris. 1827 encore, ils ont redemandé à ce qu'on enseigne les quatre articles de Bossuet dans tous les séminaires. Alors, bon, on avait que la révolution était quand même passée par là. Les évêques étaient un peu vaccinés, donc ils ont résisté et je crois que ça n'a pas tout été appliqué. Donc là, ça montre que dans les esprits, on n'avait pas bien compris. Voilà, et puis donc la quatrième partie, c'est un obstacle à la contre-révolution, parce que si on veut faire la contre-révolution, il faut commencer par remettre les principes, et les principes en ordre. Donc si on n'a pas bien compris que là il y a un désordre, on n'arrivera pas à remettre de l'ordre. Alors je termine. Voilà. Donc soyons romains. Hein. ayons cet esprit de Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre a commencé par avoir ses idées. Il a fait ses études secondaires en France. Donc, l'État et l'Église doivent être séparés, etc. C'est des conséquences du gallicanisme. Et c'est à Rome qu'il a appris, donc, au séminaire de Rome, la bonne doctrine, donc, suivant cette doctrine là, que nous a donnée Monseigneur Lefebvre. Et puis, je vais terminer sur un petit bout de l'avion, c'est pas trop bien fait. Rappelons-nous quand même que la France, malgré tout, et malgré que nos ennemis ont pris le pouvoir, donc ils ont pris le pouvoir, c'est sûr, c'est pas les gallicans qui nous gouvernent, hein. Ce sont les francs-maçons, ce sont les philosophes, c'est les philosophes, les francs-maçons qui ont fait la révolution. Mais s'ils ont fait la révolution, c'est parce que, en face d'eux, les catholiques étaient divisés. Les gallicans et les ultramontans. Et le gallicanisme est une forme de libéralisme, de concession, donc ils ont été faibles vis-à-vis des philosophes, des francs-maçons, et ils les ont laissés prendre le pouvoir. Par exemple, la constitution civile du clergé, qui était franchement mauvaise, le pape l'a condamné, les gallicans étaient pour. Donc ça n'y a pas la pagaille, le désordre, les guerres de Vendée, tout le tralala. Donc c'est, comme souvent le cas, ce sont les mauvais catholiques qui sont les pires. Parce qu'ils ne font pas leur devoir. Les méchants, ils font leur travail, il y a un limite. Ils n'ont pas leur vouloir. Ils sont comme ça, ils font leur travail. Mais les bons, les catholiques, ils devraient connaître la doctrine et puis l'appliquer. Voilà, donc rappelons-nous quand même Notre-Dame est reine de France. Hein. Et je vous conseille aussi, toujours dans ces secrétaires, numéro 17. Notre-Dame, reine de France. Il y a un article là-dessus qui rappelle comment elle a pris possession de la France dès la plus haute antiquité. Donc même avant la venue de notre Seigneur, il y avait en France des endroits où on vénérait la Virginie Paris Touré, la Vierge qui allait enfanter à Chartres et puis près de Chalon-sur-Marne. Il y a deux endroits en France où on vénérait ce Chartres est le plus connu. Donc, ça a été reconnu dès le 2e ou 3e siècle par deux saints qui sont venus, Saint Altin et Éodalde, pour constater le fait et faire construire une chapelle en l'honneur de la Sainte Vierge. Bon, puis il y a d'autres endroits en France très anciens, Notre-Dame de Rocamadour, Saint Zachée, Notre-Dame des Dons, Sainte Marthe, les Saintes Marie de la Mer, donc c'est aussi les Maries qui sont venues, donc Sainte Marie de la Mer. Et puis Notre-Dame de Soulac, Sainte-Véronique, etc. Donc la Vierge a vraiment pris possession de la France. Il y a 37 cathédrales en France qui portent le nom de la Mère de Dieu. Aucun pays ne peut rivaliser par la quantité et la qualité de ses temples à la Sainte Vierge. Donc confions-lui bien la vie à notre pays. Et puis demandons-lui donc d'avoir des idées claires, voilà, des bons principes, sachant de les garder. Les transmettre, puis prions bien à Saint-Gage. On va aller directement à l'EF parce que je vais vraiment dire, on va un petit peu de